Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Ségolène Royal, bonjour.
Bonjour.
Présidente de Désir d'Avenir pour la Planète. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous parlerai aussi de la décision de cette députée LREM qui a quitté la salle de l'Assemblée nationale où se tenait une commission d'enquête à laquelle participait une jeune femme voilée. Mais parlons et commençons avec le coronavirus. 50 décès hier, le plus grand nombre de décès depuis le mois de juin. 10 593 nouveaux cas en 24 heures. C'est un record depuis quelques mois. Les enfants, parlons des enfants, puisque vous avez été en charge de l'éducation nationale. Les enfants sont peu actifs dans la chaîne de transmission du virus dans les écoles. Est-ce que les écoles doivent rester ouvertes? Est-ce que le gouvernement a pris la bonne décision en assouplissant le protocole dans les écoles et les crèches?
Je le pense. Pourquoi? Parce que d'autres pays, par exemple, n'avaient pas masqué les enfants à l'école. C'est le cas de l'Allemagne. Donc, certains pays avaient déjà tiré les conséquences de cette information selon laquelle les enfants n'étaient pas contaminants les uns avec les autres. Donc, cela dit, cela prouve aussi que pendant le confinement, ils ont quand même subi une très rude épreuve. C'est difficile ce qu'ont subi les enfants, non seulement sur le plan de l'éducation. Donc, il y a eu des retards, vous avez des enfants qui ont décroché. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question sanitaire est aussi importante que la question éducative, que le retard qu'ont pris les enfants, qu'il va falloir rattraper. Moi, je rends hommage aux enseignants aussi, qui sont en première ligne de ce combat de rattrapage éducatif. Et puis, le préjudice psychologique. Et on sait par exemple que les psychologues scolaires ont disparu des établissements scolaires, comme la médecine scolaire. Et je pense qu'une des grandes leçons qui doit être tirée de cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, c'est de recréer des métiers si importants qui existaient autrefois à l'école et qui ont disparu. Ça pourrait être une belle décision gouvernementale de recréer les psychologues scolaires et les médecins scolaires pour accompagner, pour détecter, pour faire de la prévention et pour faire en sorte que tous les enfants qui ont subi un préjudice lourd lié à l'angoisse et à la peur puissent se remettre debout. Parce que quand on a peur, on ne peut pas bien apprendre.
Ségolène Royal, le ministre de la Santé va faire le point toutes les semaines, une fois par semaine. Est-ce bien? Parce que je vois ici ou là des voix se faire entendre et des voix nous dire « Mais c'est anxiogène, ces rendez-vous réguliers avec la population, c'est anxiogène. »
Écoutez, je trouve que le ton s'est amélioré pendant tout le confinement.
J'ai vu ce que vous disiez, oui. Vous aviez beaucoup critiqué.
Absolument, mais moi je suis juste. Vous savez, quand je dis les choses telles que je les vois, telles que je les sens, et c'est vrai que pendant toute la période du confinement et après le confinement, cette comptabilité mortifère tous les matins du nombre de personnes contaminées, etc., c'était insupportable. C'était insupportable. Psychologiquement, c'est pas comme ça qu'on remet un peuple debout. Donc aujourd'hui, je constate et je le dis que le gouvernement a une parole beaucoup plus responsable. On est passé d'un système d'infantilisation, de déresponsabilisation des Français, de répression même, à un discours de responsabilité et un discours beaucoup plus mesuré. Là, je vais vous raconter un événement que j'ai subi.
Alors, allez-y,
la semaine dernière, j'étais dans le train. J'ai assisté à une scène mais épouvantable. Oui. Il y avait là un couple de personnes retraitées d'un certain âge, sans doute, qui avaient, en plus, ils étaient gentils. Ils avaient pris la. C'était émouvant. Ils s'étaient pas mis l'un à côté de l'autre. Ils avaient laissé le couloir entre les deux. À un moment, la dame enlève son masque pour prendre son sandwich, etc. Un gars surgit du wagon, mais dans son dos, je ne sais pas comment, il a vu qu'elle avait momentanément enlevé son masque, s'est approché d'elle, mais c'était d'une violence verbale, en lui disant « remettez votre masque », etc., comme si c'était un enfant et comme si lui avait le droit de Donc, vous voyez, cette graine de dictateur qui sommeille en certains d'entre nous, s'est donné libre cours pendant toute cette période. BHL a écrit un livre très très efficace sur ce sujet-là. Donc, je donne acte positivement au gouvernement aujourd'hui d'avoir changé le ton de sa parole, parce que c'est très important au moment où, en effet, la contamination s'accélère. C'est pas une surprise, puisqu'il y a eu les brassages des vacances. Si Marseille est touché ou si la Corse sont touchés, c'est parce qu'il y a eu le brassage des estivants. Aujourd'hui, ils reviennent. Donc, il y a une petite accélération qui risque de se prolonger en octobre-novembre, donc il faut que chacun soit effectivement très, très responsable.
Justement, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu autour du masque. Ça, c'était pour le début du printemps. Aujourd'hui, on débat autour des tests. Là aussi, quand on voit ces files interminables de Français qui ont envie d'être testés, qui mettent des heures avant d'être pris en charge par le laboratoire, qui attendent des jours avant d'obtenir les résultats, là encore, c'est de l'impréparation, non ?
Oui.
Ségolène Royal.
Oui, c'est-à-dire qu'après la pagaille des masques, on a la pagaille des tests. Donc hier, ça a été recadré, puisqu'il y a eu une priorisation pour les tests. La vraie question, c'est de savoir pourquoi nous n'avons pas les tests salivaires. D'accord.
Oui. Nous dit-on aujourd'hui.
Pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt ?
Pourquoi la lenteur de l'administration ?
Je vous signale qu'ils sont déjà là aussi utilisés aux États-Unis ou dans d'autres pays.
Je sais, mais vous connaissez bien l'administration française.
Oui.
Ça vient d'où ? La lenteur de l'administration ?
Moi, je pense qu'il faut jamais incriminer l'administration, parce que l'administration est sous l'autorité des politiques. Donc, si l'administration est lente, c'est que les politiques ne sont pas réactifs. Et c'était vrai pour les masques. Rien n'empêchait à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre, de dire, écoutez, tous les Français, mettez des masques. Si vous n'en avez pas, s'il n'y en a pas dans le commerce, débrouillez-vous, vous mettez un foulard, vous mettez quelque chose. Il y aurait pu y avoir sortez vos machines à coudre, mobilisez les entreprises, etc. Et ne pas brûler surtout les masques périmés. Parce que le vrai scandale dans cette histoire, c'est que plusieurs centaines de millions de masques ont été brûlés parce que c'était marqué masques périmés. Ils sont périmés pour faire des opérations à l'hôpital.
Mais comme le yaourt périmé.
Mais ils ne sont pas périmés pour le mettre sur la bouche. Et sur son nez. Donc, parfois, il y a un peu de bêtise quand même. Donc, c'est l'intelligence collective qui permet de surmonter la bêtise.
Trop de strates de décision qui entraînent cette lenteur administrative. Je ne sais pas, moi, Ségolène Royal.
Mais les strates de décision,
au bout du compte. Je ne connais pas les arcanes du pouvoir. Vous les connaissez mieux que moi.
Ce sont les décideurs qui sont responsables. Moi, je n'ai jamais, en tant que ministre, incriminé mon administration.
C'est le décideur qui est donc responsable.
Si les décisions étaient mal calibrées, c'était de ma responsabilité puisque j'avais l'autorité sur mon administration. Donc, c'est l'autorité. Autorité politique, dans ces modes de décision.
Oui.
Souvent, quand on décide tout seul, souvent, on fait des erreurs. Donc, quand la décision n'est pas suffisamment collective, elle n'est pas suffisamment éclairée. Donc, il faut à la fois qu'elle soit rapide, éclairée, et en même temps qu'elle tienne compte de la diversité des opinions et qu'elle fasse une synthèse.
J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le gouvernement est impuissant à gérer la crise sanitaire ? Est-ce que vous le sentez impuissant ? Impuissant à mobiliser la société. C'est le fond du problème. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette impuissance, impuissance des politiques finalement, à mobiliser la société aujourd'hui ?
Je dirais pas impuissant, je dirais un peu mou, quoi. Mou, c'est d'ailleurs avec un manque de créativité, manque d'imagination. Tu sais, les gens, ils sont très débrouillards, il faut leur dire. Si vous arrivez à entraîner des citoyens et toute une population en leur disant, ben voilà, c'est difficile, mais on va y arriver collectivement, voilà ce que
mais
vous pouvez faire. Et la question du masque, ça aurait pu faire l'objet de chantiers de couture dans les quartiers, dans les écoles, dans les maisons, dans les entreprises.
C'est désordonné depuis le début.
C'est un peu cafouilleux. C'est un peu désordonné. Mais là, honnêtement, il y a une amélioration. Donc, le passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'être constructif aujourd'hui. Et ce que je voudrais souligner surtout, c'est qu'aujourd'hui, les décisions sont nuancées. C'est-à-dire que vous avez dans l'annonce gouvernementale, en même temps, c'est le cas de le dire, un renforcement des contraintes dans certains territoires durement touchés. C'est-à-dire on est sorti enfin de cette espèce d'uniformisation qui nous a fait tous être confinés, ce qui n'était absolument pas nécessaire. C'est ça quand même qui était dramatique. C'est-à-dire il y a des confinements ciblés et limités, d'une part. Il y a la réduction de la période d'isolement. Donc on pourrait dire, c'est bizarre, au moment où on réduit la période... Au moment où le virus circule, justement, c'est malin. Ça veut dire que on est plus fin dans la décision. Il y a un renforcement des règles sanitaires et le fait que les enfants ne doivent, un allègement sur l'école parce qu'on s'est rendu compte. Voilà, donc c'est fin.
Donc c'est fin.
Vous savez, les Français sont intelligents.
Je pousse ce raisonnement jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut dissoudre le Conseil scientifique ? Franchement, est-ce qu'il avait pris le pas un temps sur les politiques ? Est-ce que tout n'appartient pas qu'aux politiques finalement ?
Tout n'appartient pas aux politiques dès lors que les experts restent à leur place.
Oui.
Les experts doivent rester à leur place.
Un temps,
ils ne sont pas restés à leur place.
Ouais.
Parce qu'ils faisaient des déclarations d'abord contradictoires.
Ouais.
Une fois, c'était les masques sont inutiles. Ensuite, c'était les masques partout, etc. Donc, peut-être était-il aussi sous pression et forcé aussi de reconnaître à leur décharge que tout le monde a un peu navigué à vue. Oui, dans ce processus. Même si certains pays ont quand même été mieux gérés que d'autres, peut-être parce qu'avec plus de bon sens et de simplicité. Vous voyez?
Et plus de régionalisation de la décision.
Plus de régionalisation de la
L'Allemagne,
décision.
L'Allemagne, par exemple.
De bon sens et de simplicité, oui.
Le vaccin, parlons du vaccin. Il y a un point que je voulais soulever avec vous. Les pays les plus riches ont préacheté la moitié des futures doses de vaccins contre le coronavirus. Mmh. C'est un rapport de l'ONG Oxfam qui vient d'être rendu. Ces pays ne représentent que 13% de la population mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès au vaccin dépend de l'endroit où l'on vit et de la richesse du pays dans lequel on habite. N'est-ce pas insupportable?
Si, c'est insupportable et il y a une solution à ça. Et il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'occupe des conflits dans le monde. Eh bien, moi, je pense que la crise sanitaire, c'est comme une guerre. Et donc, ce qui permet de résoudre et d'apporter du bienfait à la population doit être considéré comme un bien commun humanitaire. Donc, moi, je souhaiterais que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse et puisse dire, eh bien non, le vaccin, c'est un bien commun de l'humanité. Et tout le monde devra y avoir accès. Et on va joindre nos efforts, parce qu'il y a un deuxième scandale, c'est la concurrence, c'est la compétition. Mmh. C'est-à-dire, c'est la course au profit par rapport au vaccin. Et puis, c'est parfois le ralentissement, justement, des processus de découverte et de mise au point, parce qu'il y a des compétitions. Et donc, il y a aussi des économies sur les coûts de production, alors qu'il devrait y avoir un intérêt général, un intérêt humanitaire commun. Et l'Europe pourrait commencer par donner l'exemple. Oui, ça serait une belle décision européenne que de dire il n'y aura pas de course à la compétition ou à l'argent par rapport à la mise sur le marché du vaccin.
Ségolène Royal, hier à l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, la représentante de l'UNEF est arrivée voilée. Elle porte le hijab, le voile, donc, au sein de l'Assemblée nationale. La députée LREM, Anne-Christine Lang, se lève et quitte la salle. Elle quitte la salle, bientôt suivie par plusieurs élus républicains. Le hijab est une marque de soumission, dit-elle. Vous auriez quitté la salle?
Je crois, oui.
Oui.
Mais la vraie pourquoi question.
La loi permet.
C'est vrai, vous avez raison. La loi permet.
À cette jeune femme de porter son voile.
La loi permet, c'est pas clair. Disons que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas prévu ce cas. Oui, parce que c'était imprévisible.
Mais vous auriez quitté la salle.
Le plus étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'elle a pu rentrer sans qu'il y ait l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle. Bon, même si je pense que c'est du militantisme de sa part. Elle a le droit de porter le voile. Elle a le droit d'être militante du voile. Il ne faut pas non plus en faire trop sur cette histoire, parce que du coup, ça se renverse. Mais tout le monde a le droit aussi.
Mais pourquoi auriez-vous quitté la salle?
J'aurais quitté la salle pour marquer... Parce que j'aurais été... Quand j'ai vu d'ailleurs ces images, j'étais quand même estomaqué. Enfin, c'est... Parce qu'à un moment, il faut du respect mutuel. Vous voyez, des uns et des autres, elle sait qu'elle provoque, elle a le droit de provoquer. Heureusement qu'on peut être provocateur dans notre société, ça prouve qu'il y a de la liberté. Mais en même temps, en face, il y a les limites, il y a la règle, c'est tout. Il y a les droits et devoirs.
Mais le règlement lui permet.
C'est parce que le règlement n'a pas pu prévoir ce cas-là. Donc maintenant, il faut prévoir le règlement, que l'on rentre dans les commissions d'enquête la tête découverte. Comme ça, on ne cible pas forcément une religion, même si c'est bien ça quand même qui est ciblé, puisque le règlement se fait à l'occasion là. Mais c'est tout, on rentre à la tête découverte dans les commissions d'enquête parlementaires. Mais il ne faut pas en faire trop, vous voyez. Ceux qui vont en faire des tonnes, se dramatiser, faire des... Non, c'est tout. Il y a des lois, des règles, des droits et des devoirs. Il y a la laïcité, il y a des règles, il y a des règles de respect. On peut être militant de quoi que ce soit. Le militantisme reste à la porte des commissions d'enquête parlementaires. C'est tout. Il n'y a aucune raison d'en faire un drame, mais il faut de la fermeté.
Est-ce que le fond du débat, ce n'est pas, le fond de la question, les lois religieuses qui passeraient avant les lois républicaines? C'est le fond du débat.
C'est le fond du débat.
Les lois religieuses, pour beaucoup maintenant, et de plus en plus, passent avant les lois républicaines?
C'est bien pour ça qu'il faut rappeler les règles de la laïcité, mais sans en faire des tonnes. C'est tout.
Sans que
la provocation inverse, vous voyez, soit instrumentalisée par ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet d'engagement et de militantisme contre. Non, il y a la fermeté de la laïcité. Et les règles religieuses ne doivent jamais l'emporter sur les règles civiles, les règles publiques, les règles de la République, en clair. Et plus on sera ferme, je vais vous dire, plus on sera ferme sur ce sujet-là, moins il y aura de polémiques et plus on pourra passer à autre chose, en particulier la crise sociale et économique qui nous tenaille.
De l'usine Bridgestone, de Béthune, la crise sociale va-t-elle être, selon vous, terrible en France ? Crise sociale conjuguée à une crise économique, évidemment. Mais...
Je pense que la crise va être très dure, mais qu'il y a une marge de manœuvre pour l'atténuer. Vous voyez, Bridgestone, c'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable ? Doublement, c'est inacceptable. La première raison, c'est que cette usine utilise le Covid pour fermer. C'est un faux prétexte, même s'il y a une baisse d'achat des voitures qui ont besoin de gros pneus. Enfin, on y reviendra.
Ouais.
Et deuxièmement, c'est que si on laisse faire ça... Mais il y en a d'autres qui vont suivre. Ils vont dire, bah, eux, ils ont fermé.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Que peut faire l'État ? Que peut faire la région ?
Moi, ça m'a fait...
Aller devant les tribunaux, j'entends Xavier Bertrand ou l'État nous crier, mais que peut faire l'État ?
Moi, ça m'a rappelé, quand je vois les salariés, la détresse des salariés, ça m'a rappelé, j'ai vécu deux exemples, un positif, un négatif. Donc, ça donne des leçons quand même. L'exemple négatif, c'était Aubade. Vous vous souvenez quand l'entreprise Aubade a fermé dans ma région là. Ça a été dramatique. On a essayé d'occuper l'usine et puis ils ont débarrassé les machines la nuit. C'était vraiment. Et puis des mois après, les ouvrières ont obtenu la reconnaissance du licenciement boursier. Mais c'était trop tard. Ces ouvrières, au bout de 35 ans d'ancienneté, qui gagnaient 1082 euros par mois et qui ont vu leur machine délocalisée la nuit pour être emmenée en Tunisie. Ça a été atroce. Bon, l'autre exemple positif, c'est New Fabrice, où les ouvriers sont même allés à un moment jusqu'à mettre le feu à certains, ce que je ne défends pas, mais tellement ils étaient en colère.
Mais vous les comprenez.
En tout cas, leur rage, je les comprenais, parce que ça a été de la même façon que ce dont on parle. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a dit, nous, avec mes équipes à la région, on ne laissera pas disparaître la mémoire de l'usine. On a racheté l'usine. On a fait pression sur...
Les Hauts-de-France pourraient racheter l'usine.
Je pense qu'il y a toujours... Il peut y avoir une solution. Et aujourd'hui, l'usine New Fabrice à Châtellerault monte des panneaux photovoltaïques. Donc, si on nous dit il n'y a plus de marché, on ne va pas forcer des usines à maintenir s'il n'y a vraiment plus de marché. Hein, si on voit des licenciements boursiers. Quoique les pneus, réfléchissons bien. Parce qu'ils nous disent, non, il y a la mode du SUV, on n'a plus besoin de pneus moins larges. Mais si, puisqu'il y a les voitures électriques, montons en puissance sur les voitures électriques et les voitures à hydrogène, et construisons les pneus adaptés aux voitures électriques et aux voitures à hydrogène. Donc toute la question, c'est l'anticipation. Vous voyez, quand les patrons cachent qu'ils vont fermer l'usine, on n'a plus le temps d'anticiper. Donc aujourd'hui, il faut un délai, il faut un moratoire pour voir si on peut accompagner la transition industrielle de cette usine.
Ségolène Royal, est-ce que vous trouvez que le Tour de France est polluant et machiste ? Ça vous a choqué, ces propos du maire de Lyon et puis le maire de Bordeaux qui ne veut pas installer d'arbres morts, donc pas de sapin Noël dans sa ville. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des écologistes qui considèrent que nous devrions faire pénitence, en quelque sorte ?
Bon, je ne veux pas les caricaturer.
Franchement.
Franchement, il y a tellement de sujets écologiques et environnementaux gravissimes sur le dérèglement climatique, sur les tsunamis qui tuent les gens, sur la sécheresse, sur la déforestation, sur les gens qui n'arrivent plus à accéder à l'eau potable, les enfants qui meurent parce qu'ils s'empoisonnent avec des produits alimentaires pollués. Il y a tellement de sujets gravissimes dans le domaine écologique qu'il ne faut pas que par des décisions intempestives et incompréhensibles, la cause, on desserve la cause en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ?
On abîme la cause. Quoi, on abîme un peu la leçon de morale.
C'est pas très grave. Mais
leçons de morale qu'on peut nous donner, que les écologistes parfois ont envie de nous donner.
Oui, c'est certain. C'est pas caricaturé. Mais il faudrait pas que certains considèrent qu'ils sont dépositaires de la vertu verte. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit, moi ça m'a fait mal au cœur, quand on dit un sapin c'est un arbre mort, parce que j'ai eu 4 enfants, c'était un bonheur de faire le sapin avec mes enfants. Et si aujourd'hui les enfants sont confrontés à Noël, alors qu'ils ont subi déjà le confinement, etc., dont on parlait tout à l'heure, et que devant le sapin, on va lui dire, t'es devant un sapin, t'es devant un arbre mort. Mais ça fait de la peine. Donc l'écologie doit être aussi joyeuse. Moi, je suis pour l'écologie non punitive, alors, et l'écologie joyeuse. Mais pour l'écologie rigoureuse, c'est-à-dire, principe pollueur-payeur, oui, il faut faire payer, il faut sanctionner, il faut condamner les pollueurs qui abîment notre santé.
Crime d'écocide,
mais il faut de l'écologie sympathique, vous voyez, joyeuse. Oui. Et le Tour de France, c'est un grand événement populaire. On peut l'améliorer, en revanche. La bonne question, c'est de savoir si... Comment est-ce qu'on améliore la filière des sapins de Noël pour qu'elle soit plus écologique? Et comment est-ce qu'on améliore le Tour de France pour qu'il soit moins polluant? Ça, ce sont des questions intelligentes.
Mais Ségolène Royal, dernière question concernant les écologistes, et d'autres d'ailleurs. Les écologistes à Lyon utilisent au conseil municipal l'écriture inclusive. Est-ce qu'il faut... Certains écologistes demandent à ce que l'on impose l'écriture inclusive à l'école. Qu'en pensez-vous?
Ça ne me choque pas, ça.
Ça ne vous choque pas?
Non, parce qu'il y a encore tellement à faire pour faire progresser la cause des femmes, le respect dû aux femmes, l'égalité hommes-femmes, que cette règle de grammaire qu'on nous a assénée, qui a formaté nos cerveaux sur le masculin l'emporte sur le féminin, ça a impacté toute la vie sociale, d'une certaine façon. Et donc, je parle beaucoup dans mon livre, ce que je peux enfin vous dire, de la génération des pères, qui m'ont dit, mais parlez aussi pour nos filles. On veut, les pères d'aujourd'hui veulent pour leurs filles une société plus égalitaire. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons identiques. Hommes et femmes, c'est pas pareil. On est complémentaires. Mais on doit être dit, on est différents, mais dans l'égalité. Et l'écriture inclusive, je pense que c'est une bonne chose.
Il faut l'imposer à l'école.
Imposer. On peut l'utiliser, on peut l'expliquer, on peut l'utiliser, etc. Pas que ça devienne non plus une contrainte, une punition, une fois de plus, comme on vient de dire. Mais ça fait partie, oui, de l'apprentissage culturel d'une nouvelle grammaire qui traite le masculin et le féminin à égalité.
Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin à 8h55, RMC BFM TV.
RMC, Bourdin Direct.